dans un ouvrage intitulé « Thinking and System ». Donald Meadows, l'un des auteurs du fameux rapport « Limit to Growth » de 72, considérait qu'un système était un ensemble de choses, d'individus, de cellules interconnectées, rassemblées entre elles, de manière à proposer et à provoquer leur propre comportement. Ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée systémique est à la fois utile, utile et universelle dans les débats de société. Utile parce qu'elle permet de poser un problème dans le cadre d'un système défini. Autrement dit, il faut comprendre comment poser une question, dans quel contexte on évolue, et comment cette question va articuler à la fois des éléments, ça peut être des individus, des objets, et comment ces éléments, à travers leur propre comportement, vont tisser une dynamique systémique au sein du système qu'on va étudier. Finalement, le système a sa propre dynamique comportementale. C'est aussi quelque chose de nécessaire, parce que poser un problème revient à configurer un système, non pas en fonction du problème donné, mais de la manière dont il évolue. Un débat sur la culture aujourd'hui ou la diversité culturelle ne prendrait pas tout son sens si on ne l'intégrait pas aujourd'hui dans les grandes métropoles et sur un tissu contextualisé. Un fait de société, le rapport à l'art peut-être, ou le rapport à l'économie, consommer des biens différents en fonction bien sûr de ces classes sociales. Identifier un problème permet aussi de comprendre quelles hypothèses on va définir. Ces hypothèses sont elles-mêmes contextualisées, elles évoluent dans un système qui va nous donner non pas des solutions, mais qui permettra de circonscrire ce problème à une logique en capacité de pouvoir le réguler, voire le maintenir en l'état. Et bien sûr, poser ces hypothèses signifie aussi les tester, et c'est comme ça qu'on a une forme de modélisation systémique, une carte mentale, qui va permettre de comprendre nos comportements, d'introduire des changements, et pourquoi pas de reposer le problème qui restera à configurer. L'idée qu'on a aujourd'hui de la pensée systémique, c'est qu'il y a un ensemble de compétences, et non plus de connaissances, qui vont être manifestement importantes dans la vie de tous les jours, qui vont forger l'individu d'aujourd'hui pour demain. La première, c'est la pensée dynamique. Je reviens sur la question du problème posé. Très souvent, on cherche des solutions. Et la solution peut se révéler catastrophique, car un système n'est jamais fermé, il est ouvert. La pensée dynamique permet de comprendre qu'on essaie de circonscrire ces problèmes, de pouvoir les réguler d'une certaine manière. Mais on est très conscient qu'ils vont toujours exister, sauf qu'on aura la main sur ces problèmes. Deuxième compétence manifestement importante, c'est les limites d'un système. Il faut savoir des limites, ce qu'on observe. Il n'y a pas de limite à l'observation. On peut prendre un sujet, un problème, et bien sûr comprendre les interactions, les causalités de manière indéfinie. S'il fallait chercher l'origine des gaz à effet de serre, on devrait revenir à nos pratiques quotidiennes, de tri ou de consommation responsable. Ça génère bien sûr un ensemble de causalités extrêmement élevé. Accepter aussi la complexité. La complexité ne signifie pas aller au-delà de la simplification. Elle signifie juste qu'on doit accepter mentalement de comprendre qu'un sujet qu'on va étudier a de la complexité derrière. Il faut comprendre son fonctionnement, ses mécanismes, ses rouages. Et comprendre que des fois, un événement qui a une très faible probabilité d'existence peut se révéler catastrophique si on ne l'intègre pas dans un système. Cette recherche des causalités joue un rôle très important. C'est l'une des compétences peut-être la plus importante du système. Je parle de causalité, non pas de corrélation. Quand on prend deux éléments, qu'on tente de comprendre leur lien, tout du moins le lien entre ces deux éléments, on va insister sur les tests statistiques qui vont nous donner un ordre d'idée. La loi des grands nombres nous explique que lorsqu'on répète un événement plusieurs fois et qu'il revient plusieurs fois effectivement en jeu, alors il va s'installer comme une loi impondérable qui va revenir sans cesse. Oui, mais que se passe-t-il si un événement qui a une probabilité extrêmement faible et qui survient peut-être une fois tous les 50 ans se révèle catastrophique pour la société? L'ensemble des causalités finales mérite qu'on s'y attarde et qu'on comprenne bien sûr tous ces éléments. Ça pose la question des boucles de rétroaction dans un système. Quand on fait une carte mentale, quand on fait les gestes de la vie de tous les jours, il faut toujours penser aux effets, aux conséquences de ces actes. De petites conséquences peuvent être dramatiques pour certains, mais on ne les verra pas, puisqu'on n'ira pas jusqu'au bout du cheminement de cette pensée. Ces boucles de rétroaction ont des conséquences positives ou négatives. Quand elles sont positives, elles renforcent un événement. Quand elles sont négatives, elles vont réguler, elles vont rééquilibrer. Mais en même temps, on va dire que le rééquilibrage est un frein au changement. Et on trouve beaucoup de réticence dans un changement de compétences par rapport à des pratiques quotidiennes, par exemple. Derrière ces boucles de rétroaction, il y a aussi une relation à la quantification, à la mesure. La pensée doit être mesurée. On a besoin d'unités de compte pour mesurer. Se déplacer signifie des kilomètres. Boire de l'eau signifie des litres ou des millilitres. La mesure fait partie de la pensée et on a besoin de quantifier. Et c'est une compétence nécessaire. Au final, cette pensée devient scientifique à une seule condition. Si elle provoque un changement de paradigme, si elle est capable de nous amener effectivement à nous transverser vers autre chose. La question qui pourrait se poser, c'est à quel moment cette pensée systémique devient valeur éducative? À quel moment l'éducation à la pensée systémique est en rupture par rapport à l'enseignement traditionnel? J'oppose manifestement deux concepts importants, enseigner, éduquer. L'enseignement parle de connaissances, de savoir, qu'il faut pouvoir transmettre. On peut considérer que l'enseignement au sens général ou au sens générique repose sur des disciplines, des spécialités, des savoirs que l'on transmet. L'enseignant est celui qui transmet ses connaissances. Mais face au cumul du savoir, face à ses méta-savoirs, il n'est plus suffisant. On doit avoir une vision plus globale qui va aborder les éléments liés entre eux. L'élément introduit ces éléments, provoque le débat, provoque les controverses scientifiques, sociétales, et peut justement évoquer de la curiosité, de l'interaction par rapport au public. Il s'agit aussi d'être en rupture par rapport à une approche analytique, un raisonnement trop linéaire, et accepter l'idée qu'on puisse combiner des approches scientifiques, artistiques, culturelles, mêlant justement une manière de penser la complexité. Au final, on voit qu'à travers tout ceci, on assiste à un changement de paradigme, mais qui va relativement loin. L'école n'est plus un système fermé où on n'entre pas, c'est un système ouvert. On peut imaginer que cette ouverture débouche sur une expérimentation, du travail de terrain plus fourni. On peut aussi pousser la pluridisciplinarité vers l'interdisciplinarité, voire peut-être imaginer de nouvelles disciplines. On est là près de la transdisciplinarité, faire émerger à travers de nouveaux savoirs des disciplines plus pertinentes dans la vie de tous les jours. Mais également débattre sur la durée de ces connaissances et de ces savoirs. On a un temps court pour des connaissances qui s'accumulent. Il n'est plus possible de garder un rythme tel quel, des programmes tels qu'ils sont conçus. Il faut aller vers de l'émancipation. Il faut que les élèves puissent acquérir par eux-mêmes des connaissances, à partir de faits, et donc les guider dans cette consultation. Mais surtout, intégrer des valeurs qui ne soient plus des valeurs de socialisation, des valeurs liées peut-être aux traditions que l'on connaît bien, mais aller vers des valeurs de participation, de citoyenneté, de démocratie. Et ça, c'est une notion fondamentale. Si on doit changer de paradigme, si la pensée systémique devient éducative, elle doit nous permettre d'intégrer des valeurs telles que la solidarité, la convivialité, voire l'intégration. C'est un défi de société que nous devons relever aujourd'hui.